Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 février 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Méga détournement de fonds US, abat l'Amérique, si l'Afghanistan. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À une de ce journal, le président Raisi assiste au sommet des pays exportateurs de gaz au Qatar. Les pourparlers de Vienne, Téhéran appelle les parties occidentales à l'accord de 2015 à adopter une approche réaliste. Et puis la visite du premier ministre israélien à Bahreïn provoque beaucoup d'indignation dans le pays. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Raisi assiste au sommet de pays exportateurs de gaz au Qatar. L'ambassadeur d'Iran à Doha a écrit sur sa page Twitter à propos de la visite du président Raisi au Qatar. La visite bilatérale officielle de Raisi au Qatar aura lieu la semaine prochaine. Selon l'IRNA, l'ambassadeur d'Iran à Doha a écrit sur sa page Twitter à propos de la visite de l'ayatollah Raisi au Qatar. En plus des réunions bilatérales, le président iranien et la délégation de haut rang qui l'accompagne assisteront également au sommet des pays exportateurs de gaz. Le Qatar accueillera le 22 février un sommet ordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz, dont la Russie. Créée en 2001, cette organisation vise en particulier à permettre aux pays membres d'anticiper de façon collective les évolutions du marché du gaz naturel et de développer l'exploitation de leurs ressources dans les meilleures conditions, notamment économiques et environnementales. Contrairement à l'OPEP, le forum ne se présente pas comme un cartel de producteurs et il ne fixe pas de quotas de production à ses membres. Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale iranien a déclaré que les États-Unis et l'Europe n'avaient pas rempli leurs obligations concernant l'accord de 2015 avec l'Iran. Dans un tweet publié il y a peu de temps, Ali Shamkhani a déclaré qu'en raison d'une telle inaction, l'accord s'est déjà transformé en une coquille vide pour l'Iran, à la fois en termes d'avantages économiques et de suppression des sanctions. Le haut responsable de la sécurité iranienne a déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation au-delà de l'accord avec un Washington non conforme et une Europe passive. Alors que les négociations se poursuivent à Vienne pour relancer l'accord avec l'Iran abandonné par les États-Unis et lever les sanctions, Téhéran affirme que la déloyauté avérée de Washington envers sa propre signature est la menace la plus importante pour tout accord. Actuellement, l'Iran et les autres signataires sont engagés dans des pourparlers intensifs à Vienne pour relancer l'accord. L'Iran exige une levée vérifiable des sanctions ainsi que des garanties que l'accord reste pérenne et qu'il durera au-delà de l'administration américaine actuelle. L'ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU a réitéré la ferme engagement et le soutien de son pays aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Majid Tartravanchi a déclaré que l'Iran était prêt à accroître sa contribution aux missions de maintien de la paix sur le plan logistique et militaire en déployant des troupes, des observateurs militaires, des policiers et des civils. Il a fait ses remarques dans une allocution devant le Comité spécial des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix. L'envoyé a souligné que les missions de maintien de la paix devaient obtenir le consentement des parties concernées, éviter le recours à la force sauf en cas de légitime défense et rester impartial. Tartravanchi a également appelé au respect des principes d'égalité souveraine, d'indépendance politique et d'intégralité territoriale de tous les États. Il a mis en garde contre toute intervention militaire des Nations Unies ou de toute force étrangère sous prétexte de protéger les civils. L'ONU dirige actuellement 12 opérations de maintien de la paix dans le monde, en Europe, en Afrique et en Asie. L'armée yéménite a publié des images montrant sa technologie et ses capacités avancées de drones. La vidéo comprend des images de drones utilisées lors des dernières attaques de l'armée yéménite contre des cibles au plus profond de l'Arabie saoudite et de son allié, les Émirats arabes unis. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a intensifié ces dernières semaines ses attaques contre le Yémen, ciblant les infrastructures civiles, y compris les stations de télécommunications à travers le pays ravagées par la guerre. L'armée yéménite, à son tour, a intensifié les frappes de représailles transfrontalières. Sanaa a averti qu'elle poursuivra les opérations jusqu'à ce que les agresseurs mettent fin à la guerre et lèvent le blocus imposé au Yémen. Les Afghans descendent toujours dans les rues de la capitale Kaboul en guise de dénoncer la décision de Washington de saisir la moitié des fonds gelés de leur pays aux États-Unis. La Banque centrale de l'Afghanistan a publié dimanche une déclaration appelant le gouvernement américain à revenir sur sa décision de saisir des fonds afghans. La déclaration de la d'Afghanistan Bank, DAB, est intervenue après que le président américain Joe Biden a signé vendredi un décret visant à débloquer 7 des 9 milliards de dollars de réserves afghanes déposées aux États-Unis, dont une moitié est prévue pour indemniser les familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001. La DAB considère que la dernière décision des États-Unis de geler les réserves de change et de les utiliser à des fins non pertinentes est une injustice envers le peuple afghan et n'acceptera jamais que les réserves de change de l'Afghanistan soient versées à titre de compensation ou d'aide humanitaire aux autres et demande l'annulation de la décision ainsi que le dégel de toutes les réserves de change de l'Afghanistan, a réclamé la Banque centrale. La décision a suscité l'indignation dans le pays, qui est sous le choc d'une immense insécurité alimentaire, de la pauvreté et de la maladie. Depuis, le peuple afghan ne cesse de manifester sa colère contre la décision US. Les États-Unis disent qu'ils mettront le reste dans un fonds géré par les Nations Unies pour l'aide humanitaire aux Afghans. Washington a gelé les fonds après que les talibans ont pris le pouvoir en août dernier. Ceci, couplé aux sanctions américaines et à une baisse de l'aide internationale, a plongé l'économie afghane dans une chute libre, augmentant le risque d'une crise humanitaire. De nombreux Afghans critiquent la décision de Biden, le qualifiant d'acte de piraterie. Ils ont appelé la communauté internationale à leur rendre justice. Enfin, la visite du Premier ministre israélien à Bahreïn a provoqué beaucoup d'indignation, je vous le disais en titre, dans le pays, incitant de nombreuses personnes à se manifester et à faire entendre leur opposition. Brûlant le drapeau israélien, les manifestants ont défilé dans les rues de la capitale Manama et ont scandé des slogans contre le régime et en faveur de la Palestine. Une courte visite de Naftali Bennett à Manama marque la première visite de ce type d'un dirigeant israélien à Bahreïn. Bennett a rencontré le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa al-Khalifa, et le premier ministre, prince héritier Salman bin Hamad al-Khalifa. Le déplacement du premier ministre israélien a coïncidé avec le 11e anniversaire du soulèvement des Bahreïnis contre le régime des Al-Khalifa. Bahreïn a normalisé ses relations avec Israël l'année dernière dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis de Trump. Madame, Monsieur, fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Méga détournement de fonds US abat l'Amérique, si l'Afghanistan. Les Afghans ont protesté contre la décision du président américain Joe Biden de saisir des fonds afghans, demandant aux Américains de ne pas gaspiller l'argent de ce peuple. Des manifestations ont été organisées mardi 15 février dans les provinces de Kaboul, Nangarhar, Maïdan et Mazar-e-Sharif. Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes d'Afghanistan pour protester contre la décision du président américain de saisir 3,5 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane, notamment pour indemniser les victimes des attentats du 11 septembre 2001. Le président Joe Biden a signé vendredi un décret permettant la saisie de 7 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane déposé aux États-Unis. Il souhaite qu'une moitié de cette somme soit réservée pour des demandes d'indemnisation déposées en particulier par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il prévoit que l'autre moitié soit consacrée à de l'aide humanitaire à l'Afghanistan, mais versée de manière à ce que l'argent ne tombe pas aux mains des talibans. Les talibans menaçaient la veille de reconsidérer leur politique vis-à-vis des États-Unis si Washington ne débloquait pas les fonds afghans. Les attentats du 11 septembre n'ont rien à voir avec l'Afghanistan, a déclaré leur porte-parole adjoint Inamallah Samaghani dans un communiqué. Leurs deux tours du World Trade Center à New York ont été détruites le 11 septembre 2001. Mais tout le district et notre pays entier ont été détruits, a dit pour sa part Mir Afghan Safi, le président de l'Association des Afghans de change en Afghanistan, qui participait à la manifestation mardi matin à Kaboul. La décision de Biden a été aussi mise en cause par la Chine, qui a exhorté les États-Unis à dégeler les fonds de l'Afghanistan et à lever les sanctions unilatérales contre le pays. Les États-Unis ont saisi les fonds afghans sans le consentement du peuple afghan, ce qui équivaut à du vol, a par ailleurs déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Le diplomate chinois s'est exprimé lors d'un point de presse lorsqu'il a été invité à commencer le décret signé par le président américain Joe Biden. Sans l'accord du peuple afghan, les États-Unis disposent à leur guise des fonds appartenant au peuple afghan et les conservent même comme s'il s'agissait des leurs. Ceci n'est pas différent d'un comportement de bandit, a dit M. Wang. Ce dernier exemple a de nouveau exposé le fait que l'ordre basé sur les règles que les États-Unis prétendent soutenir n'est pas le type de règles et d'ordre qui permet de défendre les faibles et de faire respecter la justice, mais de maintenir leur propre hégémonie, a-t-il noté. En tant que responsable de la crise afghane, les États-Unis ne doivent pas exacerber la souffrance du peuple afghan. Ils doivent dégeler les fonds, lever les sanctions unilatérales contre l'Afghanistan dès que possible et assumer leurs responsabilités pour soulager la crise humanitaire dans le pays, a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de cette mobilisation importante anti-française des Maliens. Justement, une France qui, depuis 9 ans, n'a pas cessé de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et a tout fait pour neutraliser économiquement et militairement ce pays afin de piller ce pays. Dans cette émission, nous allons nous concentrer particulièrement sur les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens par la France, et des sanctions qui n'ont rien donné car le site France 24 a clairement passé à l'aveu, a dit que ces sanctions n'avaient rien donné justement. Et en cette raison, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est rendu cette semaine à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, justement pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine, car depuis 40 ans, les sanctions exercées à l'encontre de la République islamique d'Iran n'ont rien donné à transformer l'Iran en un pays autosuffisant. Voilà, nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
C'est extraordinaire cet aveu d'échec de la France qui s'illustre sur le site de la chaîne télévisée France 24 dans ses quelques phrases inaugurales commentant l'impact de l'embargo sur le Mali. Les voisins du Mali espéraient début janvier qu'un embargo économique ferait plier la junte à la tête de ce pays pauvre et enclavé. Mais un mois après, si de premiers signaux d'alerte sont là, les autorités dominées par les militaires font front. Le voyant le plus visible s'est peut-être allumé fin janvier, quand le Mali s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer des remboursements de plus de 30 millions de dollars empruntés sur le marché ouest africain. Ces quelques phrases d'une nauséabonde hypocrisie et qui se veulent diviseuses à l'endroit des Ouest-Africains, alors même que le monde entier sait parfaitement que la CEDEAO est un moyen de chantage, de division, d'auto-affaiblissement, d'auto-endettement conçu par les puissances néocolonialistes contre l'Afrique de l'Ouest se démente d'elle-même. Et comment ? Elles reconnaissent que l'embargo signé par Kanessi, qui aurait dû mettre au pas, à peine en quelques jours, le peuple malien, est un cuisant revers, un peu comme cet embargo anti-Iran qui dure depuis 40 ans et qui a fait de l'Iran un pays autosuffisant. Puis, ces quelques phrases, mais là où elles veulent insinuer que les Maliens commencent à en avoir assez et partant à râler, se démentent encore. Et comment ? Une population éprouvée par 10 ans de conflits et de crises économiques, tout lecteur et à commencer le lecteur pro-résistant de ce site, se demande aussitôt, mais qui a causé ces 10 ans de guerre et de crise économique ? N'est-ce pas la France qui a occupé le nord du Mali puis le centre pour étendre son ancien destructis au sud sous prétexte d'avoir à combattre les terroristes ? Et puis cette économie malienne avec tous ces chiffres que les multinationaux nous font sortir sur les mines d'or découvertes, sur l'uranium dont les cours ne cessent de monter au grand bénéfice des multinationales. Pourquoi est-elle en crise encore après un si long séjour français ? Le calcul de la CEDEAO et de l'UEMOA est simple, que l'embargo force les autorités dites de transition à soumettre un calendrier acceptable de retour des civils au pouvoir. Le Mali, dépourvu d'accès à la mer, importe 70% des denrées consommées quotidiennement par ses habitants selon l'ONU. Et le lien aujourd'hui restreint avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire est vital. Cheguel Kokala Maïga, chef du gouvernement installé par les militaires, fustigeait lundi les sanctions comme des mesures injustes et sauvages, dont l'objectif est d'asphyxier le Mali et de renverser le régime pour le compte de qui l'on sait, claire référence à la France devenue l'objet récurrent de sa vindicte. Et oui, la plupart des Maliens adhèrent à cette hypothèse et comblent de malheur pour la France. La plupart des Ouest-Africains en font autant. Et c'est pour cela que l'embargo US-France-OTAN contre le Mali a été si judicieusement tourné au ridicule, car aucun État-nation côtier n'y adhère réellement. Cela rappelle la campagne de pression maximale US contre l'Iran dont les Américains disent en ce 2022 qu'elle a été la plus grosse erreur géostratégique qu'ils aient jamais commise. En Asie de l'Ouest, il y a un vent similaire qui souffle sur l'Afrique de l'Ouest.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour votre plateau, bonjour professeur Dortiguier. Vous savez que je suis étroitement la situation malienne, puisque je suis proche du mouvement Yerewolo et de sa leader Amina Fofana, qu'on appelle la dame de fer de Bamako, qui sont à la pointe de la révolution malienne.
Parfaitement, donc vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions. Un grand bonjour à monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous vos auditeurs. Et bien sûr, avec mes remerciements pour la présence de monsieur Luc Michel, qui est le meilleur observateur, à notre avis, sur cette question.
Voilà, alors ma première question va s'adresser à monsieur Luc Michel. Monsieur Luc Michel, alors pour commencer, c'est un peuple, le peuple malien, prêt à crever de la faim plutôt que de se soumettre à l'occupation étrangère. Je vous en prie.
Écoutez, le peuple malien applique ce que disait Sékou Touré en 1960 à De Gaulle. Il disait « Nous préférons vivre dans la misère que dans la suggestion coloniale ». Mais malheureusement, je ne partage pas l'optimisme de votre reportage. L'embargo est en train de frapper au cœur toute la région. Le Mali est en défaut de paiement vis-à-vis des instances internationales, ce qui était le but des Américains. Mais surtout, les économies agricoles sont en train de pourrir sur place dans toute la région, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Sénégal. Les services de renseignement militaire malien ont intercepté et publié des conversations entre le premier ministre ivoirien Alassane Ouattara, qui est le principal agent de Macron dans la région, et l'ancien premier ministre malien Sissi. Ceux-ci avouent que le but des sanctions, c'est de détruire et de renverser le gouvernement malien. La France est donc prise la main dans le sac. Et la propagande française fait croire qu'actuellement, la visite de Macron à Moscou, le but était d'échanger l'Ukraine contre le Mali. Ce n'est pas vrai, mais le but, c'est de faire paniquer les populations africaines. Pas du tout. La France n'a pas les moyens d'échanger l'Ukraine contre le Mali. C'est de la pure propagande, mais beaucoup d'Africains sont en train de paniquer. Et le but, évidemment, c'est la misère pour toutes les populations de la région.
Oui, en effet. Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Alors, c'est vrai que la France joue une nouvelle carte et la mobilisation anti-française au Mali est entrée dans une nouvelle étape. Alors, les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, le France 24, justement dans son site Internet, est passé à l'aveu et a dit que ces embargos n'avaient rien donné jusqu'ici, alors que Luc Michel pense le contraire. Que pensez-vous?
C'est-à-dire que, oui, ces embargos n'ont rien donné jusqu'ici, c'est une part de vérité. Mais je crois que la stratégie aujourd'hui d'ensemble, je dis stratégie d'ensemble employée par la France et d'autres États africains peuvent contraindre, disons, ou sinon contraindre, tout au moins neutraliser le mouvement politique qui est né au Mali. Je dis bien un mouvement politique parce que je parle du fond de l'affaire, parce que dans les formes, c'est M. Le Drian d'ailleurs et toute la diplomatie française y insiste, bien sûr, la forme, est la contestation, vous savez, de la légitimité de la politique malienne à cause des coups d'État, des deux coups d'État successifs qui ont eu lieu, et l'absence d'élection. C'est ce que là-dessus que M. Le Drian fait reposer son argumentation. Je crois que cette conception-là est une conception très abstraite et qu'en réalité, nous avons affaire à un blocus de la faim. Je ne vois pas d'autre mot plus adéquat. Mais il faut observer ce que j'ai compris en écoutant le ministre des Affaires étrangères du Mali, interrogé par une de nos chaînes de radio, de télévision, que la France s'est heurtée à une force armée malienne qui était formée dès l'époque où, donc, dont vient de parler Jean-Louis Michel, à savoir l'époque de Sékou Touré, vous savez, lors de la formation de la Nouvelle-Afrique, disons, avec Focard, etc. La plupart, beaucoup de Maliens ont été formés à ce moment-là en Russie. Je parle de l'ancienne génération, je ne parle pas de la génération actuelle. Et donc il y a eu, disons, un peu ce qui se passait justement en Guinée, c'est-à-dire qu'il y a eu une tradition de résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, beaucoup de ces militaires et hommes politiques ne sont pas, surtout les militaires, ne sont pas obnubilés, si je puis dire, par cette France-Afrique. Voyez, et donc, même s'ils sont dans une misère relative, si le pays est dans une misère relative, façon de parler pour adoucir les choses, il y a quand même une décision et une détermination politique. Ceci, je crois, est un fait nouveau. C'est le fait nouveau du Mali. Voyez-vous, il ne s'agit pas de parler d'élection ou pas d'élection. Il est très difficile, vous savez, de faire quand même des élections dans un pays qui est en état de guerre. Bon, de moins des élections qui soient convenables. Mais il y a un ressentiment de la population, mais surtout, je dirais ça de façon simple et définitive, il y a surtout une crainte de la France-Afrique, puisque c'est ainsi que nous l'appelons, voyez-vous, devant cette génération, non pas une première génération, mais une deuxième, troisième génération de militaires qui n'ont pas été formés dans le sens qu'espérait justement la politique, c'est d'ailleurs la politique gaulliste, c'est vrai, la politique de la Ve République, qui était par ailleurs, monsieur Jean-Louis Michel l'a dit l'autre jour, dans certains domaines américains, etc., et autres, très en avance et même très bénéfique au monde, mais sur le plan africain, nous avons été, cette politique française a été bien sûr dans la tradition de la Troisième République, Quatrième République, c'est-à-dire d'un colonialisme qui ne visait qu'une chose, c'est former les Africains à se battre et à mourir sur les champs de bataille européens. Voilà exactement quel était, avec évidemment les avantages que procurent les matières premières et autres, voyez-vous. Je crois que ces événements maliens auront une importance très grande sur l'avenir de la politique française intérieure chez nous. Je pense que cela pourrait même, dans ses conséquences, peut-être mettre en cause le régime politique que nous avons connu avec l'instauration de la Ve République. C'est-à-dire cela va fragiliser et ébranler nos institutions et créer de nombreux mécontentements à l'intérieur des élites et du peuple français.
Sans aucun doute. Oui. Luc Michel, M. Pierre d'Ortiguier parle bien sûr de cette détermination politique chez les Maliens, mais les sanctions existent et ça frappe bien sûr le pays et même les pays voisins. Et justement, vous avez dit l'autre jour en parlant du Mali que la Russie et l'Iran se rapprochent du Mali pour régler ce problème malien avec la bonne foi, bien sûr. Et justement, le ministre malien des Affaires étrangères a décidé de se rendre hier justement à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien, pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine, et de la Russie, bien sûr. Que pensez-vous?
C'est tout à fait exact. Vous savez, la France-Afrique, elle est en train de mourir. Le but des guerres coloniales depuis les guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1950, c'était la conquête des esprits et des cœurs. La France-Afrique a perdu les esprits et les cœurs. Il y a un double phénomène. Les sanctions ont été une erreur majeure. À première mesure qu'on détruit les économies de la région, la colère des populations africaines contre la France est en train de monter. La jeunesse est en révolte, pas seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso et dans tous les autres pays voisins, y compris en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et les coups d'État pro-français, comme au Burkina Faso, puisque là-bas ce sont non pas des militaires pro-russes, mais des militaires pro-français, ils sont en train de dresser contre eux leur population, à la fois contre le régime illégitime néocolonial et contre la France. Au milieu de tout cela, les militaires maliens qui sont notamment le ministre de la Défense, le Premier ministre et le colonel Assimi Goïta, qui sont des pro-russes, maintenant se tournent également vers l'Iran. L'Iran intervient depuis 2 ans à côté de la Russie, et elle est en train de mettre au point des mécanismes avec le Sénégal et maintenant avec le Mali pour contourner les sanctions. C'est un phénomène fondamental puisque la France est en train de perdre la main. Il y a un axe Alger-Bamako pour Moscou et Téhéran qui est en train de se mettre en place pour contourner l'ordre néocolonial. C'est un phénomène contre lequel la France est impuissante. Ça existe, ça explique la colère des Français, la colère de Macron, de Parlier, de Le Drian. Ça explique pourquoi la France perd la main et pourquoi elle complote avec les agents français dans la région. Les colonels de Guinée-Conakry comme Doumbouya, les colonels comme d'Amico à Ouagadougou, et évidemment, tous ces gens sont en train de perdre la France-Afrique, qui est en perte de vitesse et qui ne sait que mettre aux mains des mécanismes qui sont dépassés contre les peuples de la région.
Pierre d'Ortiguier, votre point de vue, je vous prie, concernant justement cette visite presque surprise du ministre malien des Affaires étrangères à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, pour parler bien sûr de comment contourner les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, mais également devenir un pays autosuffisant comme l'a réussi la République islamique d'Iran au cours de ces 40 dernières années. Et parlons bien sûr de la Russie, je vous en prie.
Bien sûr. La présence du ministre malien à Téhéran démontrerait très bien ce que Luc Michel a dit en début d'intervention, démontrerait la gravité de la situation au Mali. C'est-à-dire que la gravité dont nous n'avons pas ici, dans l'opinion française, à mon avis, une connaissance adéquate, une connaissance claire, précise. Cette présence montre que, vous savez que, je dirais que je ne vous apprendrai pas, bien sûr, la profondeur du blocus américain contre l'Iran et puis des alliés américains. Mais cette initiative, disons, malienne, je le redis encore, montre la gravité de la situation au Mali. Et je pense qu'elle sera suivie, à notre avis, d'un courant de sympathie envers l'Iran, c'est certain, de la part des États africains. Quels que soient les efforts de certains pays que je ne nomme pas, par exemple, en Afrique du Nord, par exemple, oui, pour pouvoir, disons, diminuer ou calomnier, disons, cette influence iranienne. Je crois que l'Iran, en effet, se présente quand même, c'est un acquis, comme ayant expérimenté et triomphé par la voie de la technique, bien sûr, la voie de, on peut dire, de l'autonomie. Tout ce blocus insensé, inhumain, voyez-vous, auquel, à mon avis, les préparateurs, dont les préparateurs ne doutaient pas du succès. Vous voyez, je crois qu'il y a eu, je ne dis pas, il ne faut pas non plus employer des mots trop importants, mais enfin, il y a eu de ce point de vue, peut-on dire, entre guillemets, un miracle iranien, c'est-à-dire le fait que votre pays ait pu tenir bon contre ce que n'importe quelle autre nation aurait, disons, cédé, voyez-vous, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Bien sûr, il y a...
Absolument.
C'est cela, à mon avis, qui, avec le temps, vous voyez, s'accroît. Parce que le temps grandit les choses. Le temps ne déforme pas les choses seulement. Mais le temps grandit le passé, voyez-vous. Et je crois que là-dessus, le temps africain à venir, c'est-à-dire c'est ce futur que nous connaissons en Afrique, va grandir justement le rôle qu'a eu l'Iran quand il s'agit de résister, de tenir bon, voyez-vous. J'ai souvent l'habitude, je m'excuse de répéter, mais ça c'est peut-être un défaut de mon métier de professeur de philo, mais quand je dis que l'imam Khomeini insistait, n'est pas sur le fait qu'il n'était ni d'Est ni d'Ouest, mais qu'il fallait rester soi-même, cela ne signifiait pas être hostile à l'Est ou à l'Ouest. Cela signifie qu'il fallait trouver en soi-même ce qu'on appelle l'autonomie, voyez-vous, les capacités de tenir bon. C'est ce qu'on appelle résister, d'ailleurs, en latin, vous voyez. Et c'est cela, je crois que ceci est un, je ne dis pas un éloge de l'Iran, mais montre justement que l'Iran a, visé juste dans ses politiques qui peuvent être plus ou moins comprises par les générations, bien sûr. Mais disons que je crois que le temps travaille justement pour cette résistance iranienne. Et cette résistance iranienne s'offre comme modèle. Elle prétend pas devenir un instituteur du monde, mais elle s'offre comme modèle, comme exemple, voyez-vous. Et je crois que la vertu de l'exemple, qui est toujours magnifiée par la suite, voyez-vous, à mon avis, laissera des traces et obligera les grandes puissances, je dis les grandes puissances, hein, à commencer par les États-Unis, à modifier quand même l'attitude arrogante qui était celle jusqu'à présent, et dont je dois dire que même l'attitude, à mon avis, le sommet de l'attitude arrogante a été celle de Trump, évidemment, avec l'assassinat du général Soleimani. Je dois dire que je n'ai jamais connu, à mon avis, un tel cynisme en politique, et ce cynisme aussi était aux dimensions, voyez-vous, de la peur, pas de la peur, mais disons de la constatation, de la capacité de tenir bon de l'Iran. Voilà, il faut dans le malheur, il faut aussi voir les marques du bonheur, mais dans le mal, il faut aussi voir l'empreinte du bien.
Et tout à fait. Luc Michel, tout de même, jusqu'ici, le rapprochement entre l'Iran, la Russie et le Mali était presque à l'ombre. Les responsables maliens ont déclaré que la Russie, depuis qu'elle a décidé de mettre à la disposition des Maliens des armes, ils ont tué plus de terroristes en un mois qu'ils ont tué en 20 ans par les forces étrangères, dont la France. Mais cette visite du responsable malien à Téhéran, est-ce qu'on peut dire que c'est pour mettre à jour justement ce rapprochement? Donc, il décidait une fois pour toutes de se rapprocher, donc ce sera divulgué par le monde entier que le Mali est avec l'Iran et la Russie pour régler le problème malien.
Il faut comprendre ce qui se passe géopolitiquement. Le Mali est au centre d'une guerre par procuration avec la Centrafrique entre le bloc américano-occidental avec Paris et Washington et le bloc de l'Est avec Moscou, Pékin et Téhéran. La guerre qui se déroule là-bas, c'est d'un côté la guerre hybride de la Russie et de l'Iran contre la guerre classique, économique, médiatique et militaire du bloc occidental. Il ne faut pas oublier que si la guerre hybride a été inventée par la Russie en Ukraine en 2013, ce sont les Iraniens qui l'ont inventée en 2006 au Liban. Précisément, au Liban, le Hezbollah, qui est le principal acteur de la guerre hybride, il a brisé le blocus économique occidental américano-français, et la guerre hybride iranienne, elle a été exportée dans un autre pays qui est touché par la guerre économique occidentale, c'est le Venezuela, c'est Caracas. Il y a un corridor économique Téhéran-Caracas-Dakar, précisément, en Afrique, pour briser le blocus économique iranien. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est au cœur de cette guerre économique avec la Russie et l'Iran. La visite du ministre des Affaires étrangères malien à Téhéran, après sa visite à Moscou, elle est en train d'officialiser cet axe Alger, Bamako, Moscou et Téhéran qui s'oppose à l'axe Paris et Paris et Washington. C'est cela qui est en train de s'officialiser, c'est cela qui est en train de se mettre en place. Il y a aujourd'hui un axe économique entre le Mali et le bloc de l'Est qui s'oppose à l'axe économique occidental avec sa politique de l'embargo et du blocus qui frappe le Mali, mais dont tous les peuples de la région, dont le principal agent de la France dans la CEDEAO, qui est Alassane Ouattara, est en train de frapper l'économie de son pays. C'est cela. Voilà la réalité économique et politique et géopolitique dans la région. Et face à cela, c'est la Russie et l'Iran qui sont les principales alliés du Mali et de la Centrafrique.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Pourquoi les États de l'OTAN commettent-ils un suicide énergétique ? Il y a un grand paradoxe dans la position militaire de plus en plus agressive des États-Unis et de l'OTAN à l'égard de la Russie et de la Chine, lorsqu'on la compare aux politiques économiques nationales clairement suicidaires de l'agenda vert des États-Unis et des États de l'Union européenne et de l'OTAN. L'administration Biden et le tsar des énergies renouvelables John Kerry aient faussement prétendu que leur programme vert ou Build Back Better se traduirait par des millions de nouveaux emplois. Ils omettent de dire que ces emplois seront créés en Chine, qui produit la plupart des panneaux solaires, un quasi-monopole après avoir détruit la concurrence américaine et européenne il y a 10 ans avec de panneaux bon marché subventionnés fabriqués en Chine. De même, la majeure partie de l'énergie éolienne est produite en Chine par des entreprises chinoises. Pendant ce temps, la Chine utilise des volumes records de carbone et reporte à 2060 sa promesse d'atteindre l'objectif zéro carbone 10 ans après l'Union européenne et les États-Unis. Elle ne veut pas mettre en péril sa domination industrielle au profit d'une théorie climatique fondée sur des données fausses et des mensonges selon lesquels le CO2 est sur le point de détruire la planète. La Fédération syndicale allemande, DGB, a récemment estimé que depuis 2011, ce pays avait perdu quelque 150 000 emplois dans le seul secteur des énergies renouvelables, principalement parce que les panneaux solaires fabriqués en Chine ont détruit les principales entreprises solaires allemandes. Et l'Allemagne est le pays de l'Union européenne le plus écolo. Parce que, par définition, les énergies renouvelables moins denses en énergie que sont l'éolien et le solaire font grimper les coûts de base de l'électricité, elles suppriment plus d'emplois dans l'économie globale qu'elles n'en créent. Parce que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont en réalité beaucoup plus coûteuses que les hydrocarbures conventionnels ou l'électricité nucléaire. Elles font augmenter le coût global de l'énergie électrique pour l'industrie, ce qui oblige de nombreuses entreprises à fermer ou à déménager. Seule la fraude statistique officielle masque ce phénomène. L'Europe et les États-Unis auront besoin d'énormes volumes d'acier et de béton pour construire les millions de panneaux solaires ou de parcs éoliens attendus. Cela nécessite d'énormes quantités de carbone conventionnel ou d'énergie nucléaire. Combien de stations de recharge de voitures électriques seront nécessaires pour recharger à domicile 47 millions de voitures électriques allemandes? Quelle demande d'électricité supplémentaire? Un important groupe de réflexion sur l'énergie verte aux États-Unis, RatingX, a publié une étude de propagande pour les énergies renouvelables en 2021 intitulée « Repenser l'énergie 2020-2030. 100% de solaire, d'éolien et de batterie, ce n'est que le début ». Leur réponse au problème de faible capacité pour l'éolien et le solaire est de construire 500% ou même 1000% de plus que prévu pour compenser le faible facteur de capacité de 25%. Ils affirment de manière absurde, sans aucune preuve concrète, que notre analyse montre que l'électricité 100% propre, issue de la combinaison du solaire, de l'éolien et des batteries, SWB, est à la fois physiquement possible et économiquement abordable sur l'ensemble du territoire continental des États-Unis, ainsi que dans l'écrasante majorité des autres régions peuplées du monde d'ici 2030. Cette surabondance production d'énergie propre, que nous appelons superpuissance, sera disponible à un coût marginal proche de zéro pendant la majeure partie de l'année. Cette déclaration est présentée sans un iota de données ou d'analyse de faisabilité scientifique concrète, simplement une affirmation dogmatique. L'architecte canadien défunt de l'agenda 21 des Nations Unies, Maurice Strong, un ami pétrolier milliardaire de David Rockefeller, était sous-secrétaire des Nations Unies et secrétaire général de la conférence du jour de la Terre organisée à Stockholm en juin 1972. Il était également membre du conseil d'administration de la Fondation Rockefeller. Plus que quiconque, il est responsable de l'agenda de désindustrialisation de l'économie durable sans carbone. Lors du sommet de la Terre de l'ONU à Rio en 1992, il a ouvertement énoncé le programme brutal des partisans de l'eugénisme radical tels que Gates et Schwab. Le seul espoir pour la planète n'est-il pas que les civilisations industrialisées s'effondrent? N'est-il pas de notre responsabilité de le provoquer? Ce programme est en grande partie la grande réinitialisation d'aujourd'hui. Si les économies autrefois avancées et à la forte intensité énergétique des pays membres de l'OTAN en Europe et aux États-Unis continuent sur cette voie suicidaire, leur capacité à organiser une défense, une attaque militaire convaincante deviendra un mirage. Récemment, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'industrie de la défense allemande de haute technologie et ses fournisseurs ne devraient pas recevoir de crédit bancaire parce qu'ils ne sont pas assez verts ou durables. Il semblerait que les banques aient déjà compris le message. Avec le pétrole et le gaz, la production de défense est désormais visée. Von der Leyen, en tant que ministre allemande de la Défense, avait été largement blâmée pour avoir laissé la défense allemande s'effondrer jusqu'à un état catastrophique. Dans leur poursuite unilatérale de l'agenda 2030 et du programme zéro carbone, l'administration Biden et l'Union européenne mettent leur industrie sur la voie de la destruction bien avant la fin de cette décennie. Est-ce que cela produit à son tour l'agenda actuel de l'OTAN vers la Russie en Ukraine, en Biélorussie, en Arménie et maintenant au Kazakhstan? Si les puissances de l'OTAN savent qu'elles ne disposeront pas de l'infrastructure industrielle militaire de base dans un avenir proche, pensent-elles qu'il est préférable de provoquer une éventuelle guerre avec la Russie maintenant afin d'éliminer une résistance potentielle à leur programme de désindustrialisation? Outre la Chine, la Russie est le seul pays capable de porter un coup dévastateur à l'OTAN en cas de provocation. En 1852, l'historien anglais Charles Mackay a écrit un classique intitulé « Mémoire sur les délires populaires extraordinaires et la folie des foules », qui donne un aperçu peu connu de l'hystérie de masse à l'origine des grandes croisades religieuses du XIIe siècle, de la chasse aux sorcières ou de la folie des tulipes hollandaises et de nombreux autres délires populaires. Il est pertinent de comprendre la ruée irrationnelle mondiale vers le suicide économique et politique. Les mêmes auteurs clés qui sont à l'origine des mandats de vaccination de masse anti-Covid pour un vaccin expérimental modifiant la génétique et des verrouillages qui s'en suivent dans le monde entier, notamment Bill Gates et le pape François, sont à l'origine de la grande réinitialisation du Forum économique mondial de Glasgow et de sa folie verte zéro carbone de l'agenda 2030 des Nations Unies afin de faire accepter au monde des mesures économiques draconiennes sans précédent. Pour ce faire, il faudra que la population soit docile et physiquement faible, ce que le professeur de psychologie belge, Mathias Desmet, et le docteur Robert Malone appellent la psychose de formation de masse, une psychose foule, une sorte d'hypnose de masse qui ignore la raison. Il est clair que le mythe du réchauffement climatique et l'agenda de la pandémie de coronavirus nécessitent tous deux une telle hypnose de masse, un délire populaire extraordinaire. Sans l'hystérie de peur du Covid, nous n'aurions jamais permis à l'agenda vert d'aller si loin que nos réseaux électriques sont au bord du blackout et nos économies au bord de l'effondrement. Le but ultime de la pandémie de Covid, de l'OMS et de l'agenda vert est une marche vers la grande réinitialisation dystopique de Schwab, de l'ensemble de l'économie mondiale, au profit d'une dictature d'une poignée de sociétés mondiales comme BlackRock ou Google Alphabet.
Thank you.